Le journal vous est présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. À la une, Bruxelles souhaite que les 27 imposent de nouvelles sanctions à l'Iran après un nombre horrifiant de victimes. Voilà les termes employés. Difficile d'évaluer le nombre de morts de la répression. Des centaines de manifestants réclamant la chute de la République islamique seraient morts. Peut-être des milliers. Téhéran tente de reprendre la main dans un pays toujours privé d'Internet. Après avoir enlevé Nicolas Maduro, Donald Trump veut désormais obtenir la fin de la coopération économique entre Caracas et La Havane. Le Venezuela fournit notamment du pétrole à Cuba. Un coup dur annoncé s'il se confirme pour l'île communiste déjà sous embargo américain depuis des décennies. Et puis les attaques de drones sont incessantes en Ukraine. Nouveaux bombardements russes comme toutes les nuits la nuit dernière, notamment à Odessa. Reportage à suivre de notre correspondant sur place, Théo Renaudo. Petit à petit, les liaisons téléphoniques internationales reprennent en Iran. En revanche, Internet reste coupé. La répression est de plus en plus violente. Les ONG basées à l'étranger estiment que les morts se comptent par centaines, au moins 648. Selon un responsable iranien sous couvert d'anonymat, il y aurait environ 2000 morts. Un bilan qui inclut les membres des forces de sécurité. Ce responsable assimile les manifestants anti-régime à des terroristes et les médias d'État participent à la propagande de la République islamique. Lila Olkinouara.
Les mobilisations des deux dernières semaines, des émeutes soutenues par des forces étrangères, les manifestants, des éléments américano-sionistes. Dans la bouche des autorités iraniennes et dans les médias officiels, le vocabulaire est le même. Ces médias, les seuls à encore opérer depuis la coupure des moyens de communication le 8 janvier et qui relaient exclusivement la propagande officielle de l'État selon Reporters sans frontières. Mais l'usage des médias par le régime va plus loin. Selon Amnesty International, depuis deux semaines, le régime contraint des familles de victimes de la répression à apparaître dans les médias officiels pour attribuer ces décès à des accidents ou aux autres manifestants, une pratique qui n'est pas nouvelle. La Fédération internationale pour les droits humains a recensé plus de 860 confessions forcées d'opposants ou contenus diffamatoires diffusés par ces médias entre 2009 et 2019, des confessions scénarisées dont l'objectif est de réduire au silence les voix d'opposition et de justifier la répression. Avec la coupure des communications, les seules informations non officielles arrivent au compte-gouttes. Et avec un délai de 24 heures, selon le directeur de l'ONG Iran Human Rights, il redoute avec d'autres organisations un massacre à huis clos.
La Commission européenne, par la voix d'Ursula von der Leyen, dit vouloir des sanctions rapides des 27 après, dit-elle, un nombre horrifiant de victimes. La France convoque l'ambassadeur iranien à Paris pour dénoncer, je cite, la violence d'État. Londres fait de même. Côté américain, Donald Trump dit examiner des options très fortes et promet que de l'aide est en route pour l'Iran. Il exhorte les Iraniens à continuer de manifester et à prendre le contrôle des institutions. C'est la fin de près d'un an de négociations entre Taipei et Washington sur les droits de douane, d'abord annoncés en grande pompe par Donald Trump à hauteur de 32% en avril dernier, puis descendus à 20% en août. Les deux parties semblent s'être mis d'accord pour des tarifs à 15% selon une information parue dans le New York Times. Des négociations facilitées par la promesse d'investissement sans précédent aux États-Unis de la part de la plus importante entreprise taïwanaise de semi-conducteurs, la correspondance à Taipei de Jules Bois.
Difficile pour l'heure de dire si ces négociations sont une victoire pour Taïwan, mais il est clair que la stratégie commerciale de Donald Trump a payé. En plus de nouvelles taxes sur les produits taïwanais, les États-Unis ont remporté quelque chose de beaucoup plus précieux, la promesse d'investissement massif sur leur territoire de la part de l'entreprise TSMC. Cette entreprise taïwanaise est l'une des plus importantes au monde dans le domaine des semi-conducteurs et très convoitée par Washington pour dépendre le moins possible de la Chine en matière de technologie de pointe. Au moins 5 nouvelles usines TSMC verront le jour aux États-Unis avec des investissements jusqu'ici inédits, en tout près de 140 milliards d'euros investis selon un calendrier encore incertain. En échange, cette réduction des tarifs à hauteur de 15% et une exemption de tarifs sur les semi-conducteurs taïwanais ainsi que sur de nombreux produits électroniques. La porte-parole du gouvernement taïwanais a confirmé ce mardi que les négociations touchaient à leur fin. Elles devraient être officialisées d'ici la fin du mois de janvier. Jules Bois, Taipei, RFI.
Après les multiples déclarations de Donald Trump déterminé, dit-il, à acquérir le Groenland, ce territoire autonome danois, d'une manière ou d'une autre, les principaux concernés seront à Washington demain. Une rencontre à haut risque à la Maison-Blanche entre les ministres groenlandais et danois des Affaires étrangères et le vice-président J.D. Vance, ainsi que le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio. Le premier ministre du Groenland est formel. S'il faut choisir entre le Danemark et les États-Unis, les Groenlandais choisiront le Danemark. Au Venezuela, après la chute de Nicolas Maduro, le régime libère les opposants au compte-gouttes. Trois ressortissants espagnols ont retrouvé la liberté, dit Madrid ce matin. Sous pression américaine, Caracas procède à des libérations. 110 annoncés, mais la lenteur des levées d'écrou est dénoncée par les familles d'opposants qui attendent fébrilement la libération des leurs. Des groupes de défense des droits humains estiment qu'entre 800 et 1200 personnes sont encore incarcérées au Venezuela pour des raisons politiques. Et Donald Trump veut désormais obtenir la fin de la coopération économique entre Caracas et la Havane. Le Venezuela fournit notamment du pétrole à Cuba. Est-ce possible de couper ce lien? Quelles seraient les conséquences pour l'île communiste, déjà sous embargo américain depuis 6 décennies? Élément de réponse avec l'économiste cubain Omar Everlini.
Il y a beaucoup de rhétorique dans toutes ces déclarations. D'abord, il faut rappeler que Cuba n'a rien à voir avec le Venezuela. La confrontation entre la Havane et Washington dure depuis près de 65 ans et Cuba s'est depuis toujours préparé à faire face à une telle éventualité. Ensuite, c'est vrai, Cuba reçoit du pétrole vénézuélien. Mais depuis la mort d'Hugo Chavez, les livraisons diminuent. Initialement, il y avait un accord pour 100 000 barils par jour. Mais ces trois dernières années, on était plutôt sur une moyenne de 58 000. Et l'an dernier, ça n'a jamais dépassé les 30 000. Cuba reçoit aussi du pétrole de la part du Mexique, ce qui fait que le pétrole vénézuélien représente à peu près 30% de ses besoins en tout. Si ce pétrole cessait d'être livré, Cuba devrait s'adapter. Une alternative serait par exemple de vendre le pétrole en devises à l'intérieur du pays, car le problème, c'est les devises. Si la Havane en avait, elle pourrait acheter du pétrole à Trinité et Tobago sans problème.
L'économiste Omar Everlini, joint par Natalia Olivares de la rédaction espagnole de RFI. En Ukraine, les bombardements nocturnes de la Russie ont fait au moins 4 morts et 6 blessés dans le nord-est du pays, près de Kharkiv. Moscou pilonne notamment sans relâche les infrastructures électriques ukrainiennes avec des drones et des missiles, ce qui provoque des coupures d'électricité en plein hiver. D'autres régions ont été ciblées, comme Zaporizhzhia et Odessa. Des drones Théo Renaudon sont tombés dans le centre-ville d'Odessa la nuit dernière.
Deux vagues de drones ont touché la ville vers 3h du matin. 6 Ukrainiens ont été blessés. Dans le viseur, les stations électriques, évidemment, mais pas seulement. Un hôpital, un club de sport, une école maternelle, des restaurants de plage. Les Russes frappent à l'aveugle, sans distinction entre l'anecdotique, le stratégique et l'horreur, de quoi terroriser une fois de plus les habitants. À 400 km au nord, dans la capitale Kiev, la situation semble de plus en plus difficile, alors qu'une importante vague de froid touche la région. Les Ukrainiens sont habitués à faire sans lumière depuis bientôt 4 ans, mais désormais c'est le chauffage qui manque. Et avec un thermomètre qui affiche moins 11 degrés, de la neige et de la glace commencent à se former dans les appartements. Il n'y a plus d'eau pour éviter que les tuyaux gèlent ou éclatent. Même les supermarchés commencent à fermer. Les générateurs électriques ne suffisent plus à chauffer un minimum. Théo Renaudon, Odessa, RFI.
Nouvelle juridiction, nouveau magistrat en France. Le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires a débuté cet après-midi. Marine Le Pen joue gros. La chef des députés Rassemblement National saura à l'issue du procès si elle peut se présenter ou non à la présidentielle l'an prochain. Marine Le Pen avait été condamnée à 4 ans de prison et dont 2 ans ferme et 5 ans d'inéligibilité en première instance pour détournement de fonds publics. La décision est attendue à l'été. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.